Chapitre 14. Le changement climatique, approche historique et géopolitique. Cours. Quelle politique pour lutter contre le changement climatique? Comment mettre en place une politique de lutte contre le réchauffement planétaire à l'échelle mondiale? 1. De la prise de conscience mondiale à l'action. A. Les premières réunions internationales. Il faut attendre 1972 et la première conférence des Nations Unies sur l'environnement pour que sa protection soit énoncée comme priorité internationale. C'est à Stockholm qu'est créé le Programme des Nations Unies pour l'environnement, PNUE. La première conférence mondiale sur le climat se tient en 1979. Elle fait l'état des lieux des connaissances sur le climat et sur l'impact de sa variabilité et de son évolution sur les sociétés humaines. B. Le rôle du GIEC. En 1988, le PNUE et l'Organisation météorologique mondiale, OMM, donnent naissance au groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC. Cet organisme intergouvernemental est fondé sur l'idée d'une coopération entre des scientifiques et des représentants gouvernementaux de chaque État membre. La mission du GIEC est d'évaluer les risques liés au changement climatique. Pour cela, il réalise un état des lieux de la recherche et des connaissances sur les différents aspects du changement climatique. Ces rapports réguliers sont les documents de référence des conférences internationales sur le climat. 2. La mise en place d'une coopération internationale. Année 1980, année 2010. A. La naissance de la CCNUCC. La lutte contre le réchauffement climatique n'est envisageable qu'à l'échelle de la planète. Elle nécessite une coopération efficace entre tous les États. La Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, CCNUCC, constitue le premier traité international sur le climat. Ratifiée en 1992 par la quasi-totalité des pays, elle comprend des principes innovants comme la responsabilité commune mais différenciée des États selon leur niveau de développement. Elle consacre le rôle des ONG environnementales qui proposent des solutions concrètes. Elle est complétée par des protocoles. Ces derniers sont discutés lors des conférences des parties, COP, réunions annuelles des États ayant ratifié la Convention. Les COP font le point sur l'avancement du processus et déterminent les mesures à prendre. B. Le protocole de Kyoto, 1997. Le protocole de Kyoto, premier traité international à fixer des obligations, est signé en 1997 au cours de la COP 3. Il tente de répondre aux défis climatiques en imposant aux pays industrialisés de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 5,2% entre 2008 et 2012 par rapport à 1990. Pour être mis en œuvre, le protocole devait être ratifié par 55 pays industrialisés, produisant 55% des émissions globales de CO2 en 1990. Entré en vigueur en 2015, il est aujourd'hui ratifié par 195 pays. Ces objectifs ont été atteints avec une réduction supérieure à 20%, masquant de fortes disparités d'un État à l'autre. Toutefois, certains pays ont fait défaut. En 1997, le Sénat américain vote à l'unanimité son refus du protocole de Kyoto. Les États-Unis contestent l'absence d'obligations pour les pays en développement, pourtant amenés à devenir de gros émetteurs. En 2011, le Canada se retire en raison d'un coût jugé excessif pour son économie. 3. L'accord de Paris et les enjeux géopolitiques actuels. A. Un accord ambitieux. En 2015, se réunit à Paris la COP21, dont le but est de parvenir à un nouvel accord universel. Il engagerait, à partir de 2020, l'ensemble des États, et particulièrement les plus grands émetteurs de CO2 que sont la Chine et les États-Unis. L'accord de Paris, entré en vigueur dès novembre 2016, est universel et fondé sur la différenciation. Son objectif est de limiter la hausse des températures à 2 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle et de s'efforcer de la contenir à 1,5 degrés Celsius. Chaque État doit prendre des engagements à la hauteur de ses responsabilités. L'accord cherche à établir une répartition juste des efforts entre pays industrialisés, pays émergents et pays pauvres. Les premiers, considérés comme responsables historiques du réchauffement, se sont engagés à débloquer chaque année 100 milliards de dollars à destination des pays en développement d'ici à 2020 pour les aider dans leur transition. Ce montant est destiné à augmenter dans les années à venir. Cependant, le 1er juin 2017, le président Donald Trump annonce le retrait des États-Unis de l'accord de Paris jugé trop contraignant pour l'économie américaine. B. Des enjeux différents selon le niveau de développement. Pour les pays industrialisés, les enjeux sont économiques et politiques. Il s'agit de changer de mode de production et de consommation, tout en assurant leur sécurité énergétique. Dans ces pays, les mobilisations de l'opinion publique sont aussi très massives en faveur d'une réduction des émissions. Dans les pays en développement rapide, les émissions sont en forte croissance. Ces pays, comme la Chine ou l'Inde, sont souvent touchés par les conséquences du réchauffement climatique. Ils ont donc intérêt à contrôler la hausse des températures. Mais très peuplés et se développant vite, ils sont désormais les principaux émetteurs de gaz à effet de serre. Les pays les moins avancés sont les plus vulnérables. Situés dans des zones qui subissent de forts impacts, montée des eaux pour les États insulaires, ils sont aussi trop fragiles économiquement pour assumer les efforts de réduction d'émissions. L'enjeu est donc de savoir comment les pays riches, qui maîtrisent les technologies et les capitaux, peuvent les accompagner dans leur politique de lutte contre le réchauffement climatique.